Nous avons préparé un menu très copieux, ma présentation va être succincte et donc je mets sous le mouchoir de la poche gauche toute l'émotion que j'ai de me retrouver ici et l'insondable dette que j'ai à l'égard de la BPI, puisque ce fut le point de passage entre ma carrière d'enseignant à l'éducation nationale et ma carrière de haut fonctionnaire au ministère de la Culture. C'est passé par ici, c'est passé par la démocratisation, parce que je voulais juste rappeler ce petit détail qui m'avait beaucoup frappé. Quand je suis arrivé à la BPI en tant que sociologue au service d'études et de la recherche, on m'a expliqué que tous les gens qui travaillent à la BPI faisaient du service public. Et donc, je me suis retrouvé, moi qui n'avais aucune formation de bibliothécaire, au bureau 3, à faire de la médiation, en nocturne, quelquefois même le samedi et le dimanche. C'était cette forte idéologie de la BPI, à laquelle on rendra hommage ce soir, post-68, des années 70, où démocratisation avait aussi un sens en termes d'engagement, y compris des chercheurs ou des bureaucrates. Voilà. Et pas seulement les bibliothécaires. Alors, en deux mots, je présente les deux intervenants de ce matin. Peut-être simplement en rappelant effectivement l'un des travaux marquants dans l'histoire des politiques de la lecture que fut l'ouvrage d'Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard, qui s'appelait « Discours sur la lecture », qui a un petit quart de siècle, dans lequel donc on faisait jouer cette référence à la concurrence des discours et des représentations, puisqu'on y travaillait les discours respectifs de l'Église, de l'école et de la lecture publique naissante dans la France du 19e et du 20e siècle. Et c'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui, parce que lorsque nous avons préparé les deux années précédentes les séminaires sur les politiques de démocratisation culturelle, les historiens et les sociologues, les chercheurs qui nous ont accompagnés en tant que conseil scientifique, Pierre Moulinier et moi dans la conception de ce séminaire, ont insisté sur le fait que ce serait risqué de ne rien comprendre aux politiques dites de démocratisation culturelle que de faire l'impasse sur la question de l'école et sur la question de l'éducation populaire, si l'on veut, sur la question du monde associatif et militant en général. D'où l'idée de commencer cette journée donc en donnant la parole à Max Butlen et à Guy Saez. Max Butlen, qui va nous parler de l'école, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Les politiques de lecture et leurs acteurs 1980-2000 », qui donc était universitaire en littérature, mais aussi qui a animé de nombreux réseaux militants auxquels j'ai eu la chance de participer, et qui donc s'est interrogé aux politiques publiques de lecture. D'ailleurs, il n'a pas examiné que celle du ministère de l'Éducation nationale, mais il a aussi examiné, comme le rappelait Jean-Sébastien Dupuis tout à l'heure, les politiques de lecture d'autres ministères, comme le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, etc. Donc je pense que son intervention d'aujourd'hui se centrera peut-être plutôt sur l'école. Guy Saez est donc chercheur en sciences politiques. Il a travaillé au croisement de nombreuses pistes d'investigation, non seulement la politique, des logiques institutionnelles de l'action publique, mais aussi la sociologie des acteurs, mais aussi les phénomènes de territorialisation qui sont si importants dans les domaines qui nous occupent. Et je pense que dans cette salle, la quasi-totalité des gens ont lu sa récente contribution publiée dans le bulletin des bibliothèques de France qui s'intitulait « Frères ennemis, les projets de culture populaire et de démocratisation culturelle ». Et donc, il reprendra, j'imagine, ce questionnement aujourd'hui sur le champ spécifique de lecture. Nous sommes encore une fois en train d'essayer de comprendre les aventures et les avatars des politiques de démocratisation culturelle en travaillant la question de la concurrence des discours, mais aussi de leur complémentarité, et la question des représentations sous-jacentes à ces discours et la question des pratiques réelles consécutives à ces discours. Je laisse la parole à Max Butlen.
Oui. Voilà. Bonjour. Merci Jean-Claude pour cette
Bref présentation
et pour l'évocation d'un temps où nous étions effectivement très actifs ensemble sur les problèmes de la lecture, sur les plans lecture à l'école, mais aussi dans tout le champ culturel, finalement. Alors, le sujet de mon intervention porte sur livres, lecteurs et politiques culturelles à l'école au tournant du XXe et du XXIe siècle. Mais je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, l'ENSIB, la BPI, le comité d'histoire, pour cette invitation qui m'amène à revenir sur des questions qui restent finalement au cœur de mes travaux de recherche. Le texte de présentation du colloque nous a invités à interroger la manière, je cite, « dont l'entreprise scolaire républicaine s'est prolongée dans des actions en direction de publics plus larges ». Il nous était proposé aussi d'analyser la réception contrastée des résultats des enquêtes sur la lecture et leurs effets sur le débat public. Je m'emploierai donc à souligner quelques grandes évolutions du système scolaire pour identifier certaines avancées, car il y en a, mais aussi des sources de blocage, de résistance, des difficultés préoccupantes dans la formation des lecteurs. Un premier facteur explicatif de ces dernières me semble résider dans les tensions, dans l'aiguisement des contradictions entre, d'une part, la tendance à la massification du système éducatif et, d'autre part, le maintien, voire la montée des espoirs de démocratisation culturelle. La massification du système éducatif pendant plus de 50 ans conduit légitimement à poser avec de plus en plus d'acuité la question de la démocratisation culturelle. Alors, quel constat s'impose quant aux résultats et échecs dans ce rapport massification-démocratisation culturelle ? Tout d'abord, chacun a pu observer, pour s'en réjouir ou le déplorer, un allongement constant du temps de scolarisation. Cette première diapositive rappelle qu'en 68, en moyenne, on arrêtait ses études à un peu plus de 15 ans, qu'en 2006, la scolarité était poursuivie en moyenne jusqu'à quasiment 22 ans, et qu'en 2013-2014, l'espérance de scolarisation était de plus de 18 ans, dont presque 3 dans l'enseignement supérieur. Voilà des éléments, je rappelle aussi quelques chiffres pour le baccalauréat. Voici des éléments chiffrés qui pourraient donner à penser que la massification a été réussie. On peut l'admettre certainement au vu de ces chiffres, mais le problème vient de ce que la démocratisation culturelle, elle, n'en a pas avancé pour autant, car les écarts sociaux entre les élèves, loin de se réduire, se sont aggravés. C'est ce que montrent de façon répétée les évaluations internationales PISA. Je cite là un extrait de la note de l'OCDE relative à la France qui souligne l'accentuation des inégalités, puisque, je cite encore, la corrélation entre le milieu socio-économique et la performance aux évaluations PISA est bien plus marquée dans la plupart des autres pays de l'OCDE et les inégalités ne sont pas réduites avec le temps. Le système d'éducation français est plus inégalitaire en 2012 qu'il ne l'était 9 ans auparavant en France. Et lorsqu'on appartient à un milieu défavorisé, on a clairement moins de chances de réussir en 2012 qu'en 2003. Sans parler que pour les enfants, les élèves les moins favorisés culturellement et économiquement, eh bien les choses s'aggravent. Ça aggrave encore plus pour les enfants d'immigrés, puisque un quart des 15-24 ans sortis du système scolaire sans diplôme sont des enfants d'immigrés nés en France. Alors, ce cruel constat est confirmé par l'examen des trajectoires scolaires, les choix des séries du baccalauréat selon les milieux sociaux, ou encore la nature des études suivies, l'accès aux études supérieures, aux classes prépa, aux sections des universités les plus prestigieuses. Quand on analyse tous ces indicateurs, on voit que le poids de l'origine sociale, avec dans bien des cas une tendance à l'accroissement de la proportion d'enfants d'origine aisée dans les filières élitistes et une forte présence des élèves moins favorisés dans d'autres cas. Ce que l'on pourrait reformuler de la manière suivante, la politique de massification semble avoir réussi, tandis que la volonté de démocratisation culturelle piétine, c'est le moins qu'on puisse dire, ou même aurait échoué. De là, bien des questions. Sait-on donner vraiment les moyens de réussir cette démocratisation culturelle ? Et moi, je m'interroge parfois, le voulait-on vraiment ? Et qui le voulait ? Dans ce contexte décevant, comment les politiques du livre et les politiques de la lecture se sont-elles inscrites ? Et quel a été au tournant du XXe et du XXIe siècle, la place des politiques de lecture, d'une part dans la sphère sociale et d'autre part dans l'univers scolaire. La nature même des politiques menées pourrait-elle contribuer à expliquer les résultats obtenus ? Alors j'évoquerai tout d'abord la sphère sociale. Tu as cité les discours sur la lecture de Marie Chartier et Jean Hébrard. On sait bien sûr par ces travaux et par d'autres aussi que la place de ces politiques de lecture et du livre est devenue essentielle suite aux longs combats qui ont été menés dès le XIXe siècle par les mouvements d'éducation populaire. Ces actions opiniâtres les actions opiniâtres de ces mouvements ont été prolongées au XXe siècle par les revendications des professionnels du livre et de la lecture, mais aussi par celles d'associations, de militants culturels et pédagogiques qui devinrent ce que les Américains appellent des claimsmakers, en fait des leaders d'opinion. C'est effectivement ce que je travaille dans l'ouvrage que tu as rappelé, Jean-Claude. Alors, pour avancer vers l'objectif de démocratisation culturelle, il a fallu en effet que ces acteurs construisent le problème social et culturel de l'accès à la pratique de lecture. Dans ce but, ils ont dénoncé sans relâche l'absence des politiques de lecture publique, c'est-à-dire l'insuffisance de l'offre du livre, les déficiences du réseau des bibliothèques, l'inégale appropriation sociale et géographique de la culture de l'écrit. Alors, quels furent les résultats de ces actions volontaristes ? Force est de reconnaître que longtemps, tous ces acteurs ont prêché dans le désert avant que leurs demandes ne soient entendues, reprises et d'ailleurs parfois récupérées. En tout cas, le succès, quand il est advenu, s'est d'abord traduit par la mise sur agenda politique et administratif de la question de la lecture, à laquelle priorité a été donnée finalement. Alors, Pompidou a peut-être été le premier à poser le problème, puis on sait que Lang, Jacques Lang, s'est employé à le traiter avec énergie à partir des années 80. Et ce fut dans les années 80-90 l'orientation dominante du ministère de la Culture, mais aussi de bien d'autres ministères et institutions qui, en nombre croissant, ont manifesté leur intérêt pour cette question. Donc, changement d'optique et même de paradigme. Dans ce changement, l'éducation nationale s'est retrouvée au cœur des débats, d'autant que ses partenaires, les éditeurs, les bibliothécaires et les responsables des politiques publiques se sont attachés à souligner et même à dénoncer les mauvais résultats obtenus pour ce qui est de la formation des jeunes lecteurs. Ainsi, les bibliothécaires s'interrogeaient, à l'exemple de Geneviève Patt, dans son ouvrage « Laissez-les lire », les enseignants ont-ils vraiment les moyens de faire accéder les enfants à une culture et une lecture personnelle ? Souvent, les enfants se découragent et se détournent de la lecture parce que, pour eux, le premier apprentissage a été difficile et associé à des pratiques peu stimulantes qui ne les concernent pas. Alors, Geneviève Patt s'exprime avec beaucoup de tact et de diplomatie, ce qu'elle dénonce beaucoup plus brutalement dans d'autres interventions d'éditeurs, d'écrivains, comme l'ont illustré clairement les rapports Pingot, selon lesquels l'école fonctionne mal, tout particulièrement dans le domaine de la lecture. Et la condamnation est sans appel. Au lieu de former les jeunes à l'utilisation du livre, du document, au lieu de les initier au plaisir de la lecture, elle aurait tendance, dans bien des cas, à les en détourner. Alors, dans ce contexte, comment l'éducation nationale réagit-elle ? Elle réagit d'abord en se regardant. C'est par la lecture, par l'observation des compétences et performances des lecteurs que la crise du système éducatif a été mise en évidence. Depuis les premières évaluations nationales qui datent de 1979, les enquêtes n'ont cessé de révéler l'existence d'un noyau dur de 15% d'élèves en très grande difficulté qui ne maîtrisent pas ou ne maîtrisent qu'insuffisamment les compétences de base à l'issue de la scolarité primaire. Beaucoup d'autres jeunes seraient mal à l'aise avec la culture de l'écrit lors de l'entrée au collège. Les évaluations internationales PIRLS et PISA sont venues confirmer les fortes disparités des performances en lecture des élèves et l'accentuation des écarts sociaux, des inégalités. Alors que les critiques externes se multipliaient à l'encontre de l'éducation nationale, on a pu en interne constater une prise de conscience des insuffisances grâce au développement d'une culture de l'évaluation. En conséquence, des efforts ont été réalisés alors pour tenir compte des critiques. C'est ce que l'on observe, par exemple, dans le rapport Mijon, qui date de 89 et qui a souvent été considéré comme un rapport essentiel pour la transformation des termes de la lecture scolaire. Il reste que, malgré la bonne volonté, le paquebot éducation nationale ne pouvait évoluer qu'à sa manière et à son rythme. Ainsi, alors que les partenaires de l'école appelaient à changer de cap et à déscolariser le livre et la lecture, le rapport Mijon témoigne d'un désir de reprendre l'initiative et de se lancer dans une tentative de rescolarisation. Accusé de faire des moments de lecture scolaire des pensums ennuyeux, l'institution et les pédagogues ont voulu œuvrer pour une réconciliation de l'école avec le livre, avec les jeunes, avec la lecture. De là, certaines avancées, et j'en citerai quatre. Tout d'abord, il faut noter l'élargissement des objectifs de formation des lecteurs pour tenter d'adapter l'école à la société du XXIe siècle. La lecture des instructions officielles depuis 40 ans montre une volonté progressive de former un nouveau lecteur, un lecteur qu'on pourrait qualifier de polyvalent, apte à comprendre et lire silencieusement, aussi bien à haute voix que silencieusement, en mesure de lire selon toutes les modalités de lecture, tous les textes, sur tout support, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, un lecteur capable de lire des œuvres intégrales, d'apprécier des œuvres contemporaines et de conjuguer lecture et écriture. Deuxième avancée, ensuite il faut mentionner l'entrée du livre et de la culture de l'écrit sous de nouvelles formes dans les écoles, les collèges, les lycées, grâce à la création des BCD et CDI, les bibliothèques scolaires. Relevant encore, pour ce qui est, ça sera le troisième point, pour ce qui est de l'incitation à la lecture, un souci d'élargissement des corpus par la légitimation officielle de genre, longtemps considérée comme mineure. Je pense à la littérature de jeunesse qui, après bien des combats, bien des hésitations, a été enfin légitimée, non d'ailleurs sans hésitation ni recul. Enfin, c'est la quatrième avancée que je voulais signaler, on assiste au début d'une prise de conscience qui me paraît essentielle. Le système scolaire a découvert lentement, à partir des années 80, l'importance de l'action culturelle et des politiques culturelles. Des ateliers de pratiques artistiques ont été mis en place, des projets pédagogiques à dimension culturelle ont commencé à s'élaborer avec les partenaires du livre et de la lecture. L'institution semble avoir pris conscience que l'apprentissage de la lecture est non seulement un apprentissage linguistique et cognitif, mais aussi, et peut-être d'abord, un apprentissage culturel. On en vient à mieux percevoir et prendre en compte qu'une des raisons essentielles des échecs scolaires réside dans le manque d'habitus, manque de capital culturel, manque de pratiques culturelles. Cette réalité, si longtemps ignorée, apparaît dans divers plans lecture, articulés à des plans d'action artistique et culturelle, marqués par l'ouverture de l'école sur la création et sur les arts, de là des rencontres avec des artistes, avec des écrivains. Voilà donc des avancées réelles, mais qui n'empêchent pas des régressions récurrentes. Au total, ces évolutions sont loin d'avoir été suffisantes pour réaliser l'ambition de former des lecteurs polyvalents. Des difficultés préoccupantes demeurent. Pour progresser significativement dans la voie de la démocratisation culturelle, parmi celles-ci, parmi celles sur lesquelles il est possible d'agir en interne, j'évoquerai le problème du rapport scolaire des jeunes à la lecture en général et à la lecture de la littérature en particulier. Où en est-on ? Alors bien sûr, les variations dans ce rapport sont considérables, sociologiquement et individuellement, mais des tendances apparaissent. François de Saint-Guy, dès 90, et Christian Baudelot, en 99, avaient montré que le goût pour la lecture des jeunes était très modéré, compte tenu de la forte concurrence d'autres pratiques culturelles. On sait que les travaux d'Olivier Donat et Sylvie Octobre ont permis d'approfondir ces analyses. Alors, dans une enquête complémentaire aux évaluations PISA, enquête que nous avons conduite en 2012 dans l'Académie de Versailles, nous avons vérifié, bien sûr, largement ces constatations. Mais nous avons aussi tenté de réexaminer la question suivante. Y a-t-il chez les jeunes un manque d'appétence, voire une tendance au rejet de la littérature et de la lecture? Eh bien, en fait, il nous a semblé que ce n'était pas aussi certain. En tout cas, qu'il faut nuancer. Ce qui est sûr, c'est que l'enseignement de la littérature est mis en cause. Il est souvent fort mal vécu. Les déclarations de rejet sont fréquentes à cet égard et très liées à des problèmes de compréhension. Je cite quelques paroles des élèves que nous avons interviewé dans cette enquête, elles sont bien significatives, parce qu'on retrouve souvent, plus ou moins bien dit, ce genre de remarques. Les livres que le prof nous impose, avec des mots compliqués que je ne comprends pas, j'aime pas trop, c'est trop éloigné de ma vie, ou encore celle-ci, très désabusée. Les livres d'école, honnêtement, je ne les lis pas, hein. Molière, ça va une seconde. À chaque fois, les profs, ils nous font lire le même livre. À y regarder de plus près, ce sont les modes de l'enseignement actuel de la littérature qui posent problème, plus, semble-t-il, que la pratique de la lecture de la littérature. Celle-ci peut fort bien exister, comme le montre, entre bien d'autres, la déclaration d'une élève d'un LEP de Trappe. Celle-ci ne se considère pas du tout comme lectrice, alors qu'elle dévore des livres que l'école ignore. Son constat me semble éloquent. Quand c'est genre fantastique, en fait, je peux lire des heures, je rentre vraiment dedans, alors que dans les livres qu'ils donnent à l'école, je ne rentre pas forcément dans l'histoire. Avec la fantaisie, des fois, on se met à la place du personnage. À l'école, on est obligé de lire. Chez moi, je lis pour lire, en fait. Quand on lit pour soi, c'est mieux. Plus les élèves grandissent, se rapprochent du baccalauréat, plus l'évaluation pèse, plus leur rapport à l'enseignement des lettres semble se dégrader. Je terminerai par quelques remarques, enfin, en ce qui concerne plus généralement leur rapport à la lecture et aux politiques de lecture. On a noté chez les jeunes comme chez les adultes la baisse du nombre de grands lecteurs, de livres, et parmi eux, celle de gros lecteurs. Les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français le soulignent régulièrement. Est-ce à dire pour autant que les jeunes ne lisent pas, ne lisent plus ou lisent moins qu'avant ? Là encore, ce n'est pas si sûr. Et ce n'est pas confirmé par notre enquête, même si beaucoup d'adolescents déclarent ne pas être lecteurs, car pour eux, lire, qu'est-ce que c'est lire ? Eh bien, lire, c'est lire les livres prescrits par l'école. Et dans leurs réponses, ils ne tiennent aucun compte de toutes leurs lectures qui ne sont pas légitimées par l'institution scolaire. Et ils ne tiennent pas davantage compte de leurs lectures sur écran, qui sont pourtant multiples. En réalité, les jeunes lisent. Mais voilà, ils ne lisent pas la même chose que lisait la minorité qui lisait il y a 40 ans et plus. Ils lisent en fait plus que bien des adultes et plus qu'on ne le croit généralement, mais leurs lectures ne sont pas en correspondance avec celles que souhaiteraient leurs formateurs, si bien que leurs pratiques de lecture et leurs lectures réelles souvent sont restées et restent encore invisibles, décalées, tandis que l'école continue à attendre d'eux qu'ils reproduisent les gestes et comportements du lecteur idéal typique d'autrefois. Ce qui manque cruellement dans le système éducatif, ce sont les médiations, des médiations de qualité qui s'appuieraient sur la prise en compte des pratiques culturelles et des pratiques de lecture réelles des jeunes pour leur permettre d'élargir leurs horizons de lecture, notamment littéraires. À cela s'ajoutent sans doute des résistances dans les pratiques professionnelles devant l'introduction des outils et des technologies usuelles d'information, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire pour que dans les pratiques professionnelles, on tire toutes les conséquences du nouvel objectif de transformation de tous les élèves en lecteurs polyvalents. Un mot sur les politiques de lecture. Dans l'univers scolaire, comme peut-être aussi un peu dans la sphère publique, malgré les efforts réalisés de l'école au lycée pour assurer une présence du livre et encourager la lecture, à y regarder de plus près. Les politiques qui ont été mises en place ont été des politiques d'offres, me semble-t-il, plus quantitatives que qualitatives. Elles ont certes permis la multiplication des lieux de lecture, des bibliothèques, et facilité, en classe comme ailleurs, l'accès à d'innombrables objets à lire, ce qui n'est déjà pas si mal, ce qui était nécessaire, indispensable, mais ce qui en aucun cas n'est suffisant, car ces politiques, me semble-t-il, se sont réalisées sans réelle prise en compte de l'évolution des publics. On a fait au public nouveau de la massification une offre semblable à celle qui était faite aux héritiers du XIXe siècle, la première partie du XXe siècle. On a vécu, en fait, sur une illusion, un peu comme cela s'est produit dans les bibliothèques publiques, d'ailleurs, une illusion qui a conduit à s'imaginer que le rapprochement avec les non-lecteurs, la multiplication des lieux et objets de lecture, l'entrée massive du livre et de la littérature suffirait à régler la crise de la lecture. Bien sûr, ça a amélioré les choses. Par exemple, dans les bibliothèques, on a augmenté sensiblement le pourcentage d'inscrits ou d'usagers, mais on a du mal à aller au-delà de 30%. Après avoir mis en place ces politiques d'offres, au total, on a découvert la cruelle exactitude de la prévision de Champbaudredon, qui est déjà assez ancienne, quand il disait, avec Bourdieu, « La proximité spatiale du livre ne règle pas les problèmes de distance sociale à la culture de l'écrit. » Conclusion. Pour autant, la démocratisation culturelle dans le champ de la lecture est-elle condamnée à l'impasse ? Je terminerai de manière positive, optimiste. Non, elle n'est pas condamnée, me semble-t-il, à l'impasse, sous condition, toutefois. Oui, l'école peut, dans son champ, et pour ce qui relève de sa responsabilité, contribuer à faire bouger les lignes. Donc, cette démocratisation n'est pas condamnée à l'impasse si, au lieu de centrer excessivement l'action scolaire, l'action de formation des lecteurs à l'école, sur l'admiration de l'objet livre et des textes littéraires, on en venait à se préoccuper de ce qui est encore trop négligé aujourd'hui, à savoir les modes et conditions de réception et d'appropriation de l'écrit par les jeunes. Ce qui devrait conduire à mieux prendre en compte ce que les didacticiens considèrent comme négligé, à savoir le texte du lecteur. Non, il n'y a pas de fatalité si, dans le même temps, le travail de médiation est profondément repensé dans le champ des didactiques de la lecture et de la littérature, ce qui, entre autres, appelle la mise en place d'une véritable pédagogie de la compréhension et de l'interprétation, faisant toute sa place à l'enseignement des stratégies de lecture, à la confrontation des manières de comprendre et d'apprécier les textes, à une médiation culturelle, bien sûr, à une rénovation, enfin, de la formation des offreurs, des enseignants et les autres médiateurs. Non, il n'y a pas de fatalité si l'on en vient à conjuguer les politiques du livre, les politiques d'offre, avec des politiques de lecture et de formation soucieuses de travailler, ce sera mon dernier mot, à partir de la diversité des réceptions des textes. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup à Max Butlen. Je propose que l'échange avec la salle se situe après la deuxième intervention. Juste deux points. Le premier, c'est qu'au début de ton intervention, tu as une petite phrase malicieuse sur laquelle on reviendra sans doute, soit ce matin, soit en fin de journée, avec les interventions sur la sociologie des pratiques culturelles, où tu te demandais, dans le rapport entre massification du système éducatif et réelle démocratisation culturelle, si on avait vraiment voulu cette démocratisation de la culture et cette émancipation des citoyens. J'aime bien cette petite malignité. Et sur ton optimisme, une dernière anecdote pour le partager. Il y a dans cette salle, évidemment, j'imagine, une grande majorité de prescripteurs. Je voudrais quand même rappeler que les voies de la prescription sont impénétrables. Et j'entendais il n'y a pas longtemps un monsieur plus jeune que moi, un fils de 14 ans, et qui est rentré du collège avec un roman de Marguerite Duras et qui s'est dit « Ça y est, mon fils a enfin une amoureuse cultivée ». Je passe la parole à Guy Saès.
Merci, mais une transition difficile. Moi aussi, je remercie bien sûr les organisateurs et particulièrement l'action que mène Jean-Claude Pompougnac au comité d'histoire pour animer ces débats et ces recherches sur la démocratisation culturelle. Alors, on a dit ça fait 3-4 ans. Non, en fait, c'est beaucoup plus long que ça. Ces interrogations sont beaucoup plus anciennes. Et rassurez-vous, ça n'est pas aujourd'hui qu'on y mettra fin. Alors, les bibliothèques et l'éducation populaire, alors, est-ce qu'elles seraient des rescapées de l'idéologie de la démocratisation culturelle ? Est-ce que ces deux institutions seraient rendues inutiles par la croissance extraordinaire de l'offre ? Croissance extraordinaire de l'offre de documents, mais aussi de loisirs culturels. Est-ce que ce seraient des ontologies du collectif qui seraient dépassées par l'individualisme expressiviste de la société postmoderne ? Voilà des questions que j'entends souvent lorsque je suis en présence de militants de la lecture publique ou de l'éducation populaire. Alors, évidemment, je ne vais pas répondre à ces questions parce qu'elles sont beaucoup trop massives, d'une part. D'autre part aussi, peut-être parce que j'estime qu'elles sont un peu mal posées. Je ne crois pas que le moment soit venu ou soit encore celui de l'interrogation sur les fondements normatifs de la lecture publique ou de l'éducation populaire. Je crois plutôt qu'il faut faire une analyse pragmatique, au sens philosophique du terme, de la situation et voir plutôt comment les bibliothèques et l'éducation populaire permettent aujourd'hui à leur public de comprendre le monde, de faire en sorte que le monde soit rendu intelligible. C'est pourquoi, dans mon idéal, Je crois que éducation populaire et bibliothèque publique devraient construire ensemble des centres d'intelligence publique. Et je prends le terme public dans ses trois acceptions possibles. D'abord, un service public, bien sûr. Ensuite, la constitution de public, c'est-à-dire de collectif, de groupe. Et puis, enfin, troisièmement, leur inscription dans la structure d'un espace public. Faire en sorte que ceci débouche sur une adresse aux politiques à travers l'espace public. Alors, je vais ici essayer de traiter un peu de ces rencontres entre éducation populaire et bibliothèque publique, mais je ne vais pas le faire avec une, disons, une chronologie historique pure et parfaite, d'abord parce que j'en suis tout à fait incapable, et ensuite parce que je voudrais au contraire revenir sur des enjeux d'aujourd'hui, les défis communs qui me semblent tout à fait essentiels à essayer de, disons, d'analyser. Mais ce que je ferai dans un premier temps, c'est de rappeler en quoi les bibliothèques et l'éducation populaire, mais surtout les bibliothèques, se sont particulièrement bien inscrites dans le mode d'action publique culturelle qui s'est développé depuis, disons, une cinquantaine d'années, plutôt aussi, si on veut être un peu plus précis, depuis les années 80. Un mode d'action publique que je caractériserai par trois dimensions. La dimension territoriale, la dimension transversale et la dimension partenariale. Ce sont ces trois dimensions qui expliquent la manière dont les bibliothèques sont finalement se sont bien inscrites, ne sont pas à côté, ne vivent pas leur institutionnalisation d'une manière qui serait trop morose ou trop triste. Alors, pour parler des rencontres, et on verra au cours de ces rencontres justement comment se manifestent ces trois dimensions du partenariat, du territorial et du transversal. Parler de ces rencontres, peut-être faut-il faire un bref rappel sur le fait qu'il y a eu un moment où on ne parlait pas de bibliothèque de lecture publique, mais de lecture populaire. Et il y avait des bibliothèques populaires qui étaient des bibliothèques privées la plupart du temps, qui dépendaient des mouvements d'éducation populaire, des associations, de l'action syndicale, éventuellement de l'action politique, quelquefois de l'action religieuse. Et ces bibliothèques se sont construites sur un modèle associatif en recourant souvent au bénévolat. Je renvoie ici à des travaux qui sont bien connus, ceux de Noé Richter, et puis aussi à toute l'entreprise de l'histoire des bibliothèques françaises conduite par Martine Poulain. Dans cette histoire, je retiens un point qui est très intéressant et très actuel. C'est l'intérêt commun, éducation populaire bibliothèque, pour la localisation des bibliothèques et pour la forme même des bibliothèques. Et j'aimerais bien mentionner la volonté modernisatrice, et moderniste même, qui a pu animer certains acteurs dans les années 30, notamment pour les bibliothèques des centres d'éducation ouvrière, par exemple celle de Grenoble en 36, qui avait fait appel à l'architecte Jeanne Rey, le parent de Le Corbusier, travaillant d'ailleurs dans le même style moderniste que lui, pour dessiner une salle claire avec des matériaux modernes et des couleurs vives. On retrouvera ce problème du local, enfin de l'équipement lui-même, à la fin de mon exposé. Je rappelle aussi dans cette même veine que la bibliothèque hors les murs dont on parle aujourd'hui, c'est finalement l'ordonnance de 45 et les bibliobus. Donc ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait récent. Autre rencontre, alors celle-ci peut-être plus fondamentale, c'est sur les méthodes. Dans certains mouvements d'éducation populaire, et là je vais parler plus précisément de celui que je connais le mieux, qui est Peuple et Culture, on avait mis en place des méthodes pour travailler sur le livre. Et pour travailler sur le livre, on a mis en place une méthode qui s'appelait la méthode de la fiche de lecture. Il s'agissait de créer donc une fiche de lecture qui serait utile aux bibliothécaires comme aux enseignants, pour, dans le cadre d'initiation à la littérature, et donc de former un ensemble d'animateurs autour de cette méthode de la fiche de lecture. Cette fiche de lecture venant en complément d'autres instruments d'animation de l'époque, comme les stages d'initiation, les stages de perfectionnement, ou des formations plus spécialisées qui étaient mises en place par Public Culture, destinées directement aux bibliothécaires, comme par exemple organisation de la lecture publique, technique pour une bibliothèque vivante. Je rappelle que l'un des premiers ouvrages de la fameuse collection Peuple et Culture publiée aux éditions du Seuil portait justement sur les bibliothèques avec la signature de Geoffre Dumasdier. Au-delà de ces fiches de lecture, il y avait également une commission lecture au sein de Peuple et Culture, une commission lecture qui était composée de responsables comme Benigno Cáceres, Geneviève Cáceres, Georges Jean. Je signale par ailleurs que c'était également des écrivains, Benigno Cáceres et Georges Jean, qui en seront des membres actifs et qui vont développer, irriguer largement le territoire français de ce genre de travaux. Ils seront d'ailleurs relayés un peu plus tard par d'autres personnes comme Jean Adair ou Jean Assenforder. Dans un article récent, Jean-Marie Privat et Marie-Christine Vincent parlent de ces fiches de lecture. Et notamment, il montre le caractère très, très, très novateur de l'approche développée par Public Culture à ce moment-là. Il le qualifie de premier mouvement français de formation d'animateurs dans ce domaine. Dans le domaine scolaire, la fiche de lecture fait une entrée officielle, mais beaucoup plus tardive, dans les programmes, puisque ça se passe en 1977, à un moment où Public Culture a déjà abandonné cette méthode. Autre rencontre, c'est une rencontre sur les fondements même de la bibliothèque de lecture publique. Vous savez, il y a eu plusieurs rapports importants de l'UNESCO sur la définition des bibliothèques de lecture publique dans les années 60. Et en 1967, le rapport d'Henry fait référence à ces rapports de l'UNESCO et dit, je le cite, « Il faut entendre lecture publique au sens où l'on prenait autrefois l'instruction publique, de même qu'il a tenu à offrir à tous les moyens gratuits de s'instruire. L'État considère qu'il est de son devoir de mettre à disposition de chaque citoyen les ouvrages dont la lecture peut être agréable et utile, etc. etc. » Ce sont les principes mêmes qu'a fixés un manifeste de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque publique ? Eh bien, c'est un centre d'éducation populaire offrant à tous une éducation libérale. Peut-être encore une quatrième rencontre, c'est la question de l'introduction dans les deux mouvements de la notion de développement culturel. Notion qui apparaît à la fin des années 60 avec les premières désillusions que l'on a justement sur la notion de démocratisation culturelle. Cette introduction de la notion de développement culturel, elle est vraiment reprise par les élus locaux et les bibliothécaires qui vont développer dans les années 70 et 80 ce grand mouvement de construction de bibliothèques. Là, je renvoie aux travaux d'Anne-Marie Bertrand que je pense vous connaissez parfaitement. Mais je veux souligner ici que c'est justement à ce moment-là que s'inscrit la dimension territoriale de la bibliothèque publique. À la fois parce qu'on fait attention à son implantation, parce qu'on fait attention à son environnement social et à son environnement urbain, parce que aussi la réflexion sur les équipements socioculturels a progressé, alors que la réflexion était totalement embryonnaire et quelque peu amateur jusqu'au milieu des années 60. la réflexion sur ce qu'est un équipement culturel urbain à la fin des années 60, au début des années 70, se professionnalise et prend en compte des dimensions beaucoup plus nombreuses et diverses de la vie sociale. Territoriale, mais aussi transversalité. Je fais ici référence à ce qu'avait déclaré Cécile Guittard lors du colloque de 1981 à Hénin-Beaumont. Il disait « L'action culturelle se définit dans la capacité des bibliothécaires à sortir de leur équipement, à collaborer avec les autres institutions culturelles, sociales et éducatives. » Et donc là, on voit qu'il y a à la fois du transversal et du partenarial. Et il dit, j'aime beaucoup cette formule, je ne sais pas comment vous la prendrez, hein. Les bibliothécaires sont des gens capables d'avoir des idées et de mobiliser les autres autour de leurs idées. Je pense effectivement qu'il avait parfaitement raison. Ceci dit, cette introduction du développement culturel et de l'animation culturelle ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes, puisque dans un mémoire de l'ENSB, à l'époque ENSB, Pascal Issartel disait que, enfin, faisait le diagnostic que cette expérience n'avait guère duré. Et que même si, comme on l'avait encore répété au colloque sur la culture et bibliothèque de Saint-Dié, là je cite deux colloques importants, Hénin-Beaumont et Saint-Dié, le livre reste le seul moyen d'action culturelle à toucher toutes les couches de la population. En fait, plutôt que rejet de l'animation, je crois que c'est le moment que... c'est à ce moment-là, du début des années 70, jusqu'au milieu des années 70, que l'éducation populaire et les bibliothèques de lecture publique vivent leur crise d'institutionnalisation. Alors, pour la lecture publique, c'est peut-être une crise infantile. C'est le début d'une institutionnalisation qui va les mener vers des voies différentes, alors que peut-être pour l'éducation populaire, c'est une crise sénile, puisque là, il y a peu de possibilités, en tout cas à ce moment-là, de retrouver de l'énergie et du dynamisme. Pourtant, donc, je le disais, ces années 70, et notamment l'année 76, qui est importante pour les bibliothécaires, puisque c'est le transfert du service de lecture publique à la direction du livre, on voit qu'il y a une impulsion très, très importante qui est donnée aux nouvelles bibliothèques, aux liens entre éducation populaire et bibliothèque qui sont toujours au moins sur le plan local, enfin qui font toujours partie des priorités des décideurs. Ultime rencontre, alors c'est dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, mais peut-être en le prenant à l'envers, c'est la rencontre que je dirais, enfin, une rencontre sur la dépédagogisation ou une rencontre sur la déscolarisation, c'est-à-dire le fait que ces institutions, disons, prennent une autonomie maintenant quasiment totale à l'égard du système scolaire. Pas simplement d'ailleurs à l'égard du système scolaire, mais aussi à l'égard de la notion même de pédagogie. Et l'on voit d'ailleurs à la fin des années 70 une grande bagarre idéologique se passer au sein des milieux enseignants concernant cette question de l'animation qui est opposée à la pédagogie, et même au sein de la vie politique, si certains se souviennent ici de la polémique très forte qu'avait engagée le Parti communiste à la fin des années 70, qui voyait le Parti socialiste gagner de plus en plus d'importance et de voix parce que le Parti socialiste s'était justement mis à la participation et à l'animation, alors que le Parti communiste, lui, voulait défendre la science et la pédagogie. Et donc, on voit là que ce sont des phénomènes extrêmement profonds qui ont frappé la vie française. Donc, Voilà quelques éléments hein, qui montrent comment ces rencontres se sont faites et aussi comment s'est manifestée cette inscription dans le territorial, le transversal et le partenarial. Maintenant, il faut examiner plutôt ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la façon dont les bibliothèques, se positionnent par rapport à, aux stratégies de politique culturelle qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Alors ces stratégies de politique culturelle, on peut en discuter, hein, mais personnellement, je les rassemble autour, là aussi, de trois dimensions, trois stratégies, trois options possibles, qui sont l'option de la société créative, l'option de la société participative et l'option de la société interculturelle. Alors, en ce qui concerne la question de la créativité ou de la société créative, bien entendu, ce qu'était le modèle de l'affiche de lecture, des cercles de lecture, etc., tout cela a été dépassé. Et ça a été dépassé de manière assez significative par la création non plus de cercles de lecture, mais de cercles d'écriture. Donc, à l'intérieur d'un certain nombre de mouvements, et notamment, encore une fois, de peuple et culture, c'est au contraire autour de cette question de l'écriture, c'est-à-dire donc de l'expression des individus, qu'on a essayé de reprendre en compte la question de la créativité. Cependant, cette question de la créativité, qui est évidemment très à la mode depuis les années 2000, n'est pas du tout une découverte. Là encore, j'ai une citation de Joseph Rovan, l'un des responsables de Peuple et Culture, qui disait en 1971 « Nous passons inévitablement de la récréation de l'univers à la créativité de l'homme. La créativité, c'est le besoin que ressent chacun, même s'il le formule mal, de participer à cette nouvelle phase de la création. Dans le domaine de l'expression, ce ne sont plus les techniques d'expression orale ou écrite que nous avons à transmettre, ce que l'on faisait auparavant. Nous devons promouvoir un travail de recherche avec les hommes qui ont la volonté d'être des créateurs. » Alors, cette volonté d'être des créateurs, c'est justement se sortir de la société pédagogique ou de la pédagogie pour essayer de penser une société créative. Alors, cette société créative, elle fait l'objet d'une intense exploitation de marketing culturel depuis les années 2000. Donc je ne vais pas peut-être trop insister là-dessus. Je pense que vous en êtes rassasié. Simplement, je dirais que ça n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ça n'est pas simplement une lubie. C'est un mouvement profond, alors qui intéresse évidemment les élus, parce qu'ils pensent que c'est comme ça que leur ville ou leur État ou leur région, une région créative, une Angleterre créative, c'est Tony Blair qui avait lancé la mode, hein, Creative Britain, mais enfin maintenant, vous avez des créatives partout, et donc les régions veulent être créatives, les quartiers veulent être créatifs, toutes les villes veulent être créatives, et les responsables politiques sont extrêmement séduits, et non seulement séduits, mais sont extrêmement fascinés par cette thématique de la créativité et sont prêts à entendre un peu tous les gourous de la créativité qui pullulent et qui, effectivement, réussissent à convaincre autour d'eux. Alors, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect donc, qui est beaucoup plus lié à un changement de type anthropologique, hein, qui est cette volonté d'expression. Alors peut-être faudrait-il être plus précis en parlant d'expressivité. Qu'est-ce que c'est que l'expressivité ? Eh bien, c'est ce que on pourrait appeler l'expression sans les règles de l'art. Alors là aussi, les enseignants en savent un bout là-dessus. Hein. Comment faire en sorte que les élèves disent quelque chose dans leur rédaction ou dans leur dissertation ? Eh bien, ne nous occupons pas trop des règles de la grammaire. Laissons-les s'exprimer. Alors, l'expressivisme de la société, c'est effectivement cela. C'est le fait que tout un chacun, maintenant, avec son écran ou avec d'autres moyens, nous pouvons nous exprimer et nous n'avons plus que faire des règles de l'art. Donc là, c'est un changement anthropologique extrêmement, extrêmement important. Je capte ici une réflexion d'un bibliothécaire anonyme qui disait, voilà, quand les gens captent quelque chose dans un spectacle avec leur smartphone, alors que les professionnels ont de beaux cadrages, ça exprime un moment de leur vérité, qui en soi a de la valeur. On ne peut l'opposer aux critères de qualité. C'est exactement ça que j'appelle l'expressivisme. Alors, la stratégie créative dans les bibliothèques, ça existe, bien entendu. Il y a évidemment de nombreuses expériences à l'étranger que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais aussi des expériences en France. Je cite ici uniquement l'expérience ou la méthode Biblioremix de Rennes, mais il y en a bien d'autres. Il y a des expérimentations qui sont faites où les bibliothèques tentent d'intégrer ce qui fait l'essentiel des innovations technologiques d'aujourd'hui qui intéressent, enfin, ou qui sont plutôt à l'origine de nouvelles pratiques de connexion des individus et particulièrement des jeunes. Et je crois que, du coup, il y a une interrogation qui se pose pour les bibliothécaires. Et je pense que ces interrogations sont bien synthétisées dans un livre. Alors, je ne sais pas si Yves Alix a sa liste. Peut-être qu'il le connaît ou il ne le connaît pas. Un livre de David Lankes qui s'appelle « Atlas of the New Librarianship ». Et dans lequel il dit la mission des bibliothécaires, c'est d'essayer de faciliter le développement de la création dans leur communauté. Donc, faciliter le développement de la connaissance et de la création dans leur communauté. C'est pas autre chose, c'est ça. Voilà. Donc, au service, alors tout ça au service de la génération, de la nouvelle génération, la nouvelle la Y, enfin Y, Z, Z ou Z ou X. Donc, c'est nouvelle génération. Donc, on peut se poser ici la question de savoir si, comment ce changement peut être vécu par l'ensemble des bibliothécaires et aussi par une grande partie de l'éducation populaire. Parce que ça fait référence effectivement à quelque chose qui est là aussi extrêmement profond. C'est d'une certaine façon l'abandon de l'idée selon laquelle le rapport au savoir est un rapport rationnel ou à la connaissance. C'est un rapport rationnel, s'inscrit dans une tradition qui est celle des Lumières, alors que plutôt là, il s'agit de faire appel à des sensibilités. J'ai vu que dans le programme, on parlait du plaisir. Alors, on est presque au niveau de la sensibilité quand on parle du plaisir. Il ne s'agit pas de plaisir intellectuel, il s'agit de plaisir sensible, de plaisir esthétique. Et là, il me semble qu'il y a effectivement une réflexion intéressante à avoir. Alors, le problème de la société créative, tel qu'il est en tous les cas posé par les gourous dont je parlais et par les politiques culturelles des villes dites créatives, c'est qu'elles renouent d'une certaine façon avec l'élitisme. Et donc, on est loin. Avec la société créative, justement, on est loin de la démocratisation culturelle. C'est la raison pour laquelle il y a une autre option, qui est une option éventuellement complémentaire ou d'équilibre, qui est cette option de la société participative et donc de la bibliothèque participative. Je cite encore une fois Cécile Guittard au colloque de 81. Il disait... Enfin, notre action est amputée de sa principale force si elle n'associe pas étroitement la population. Sans assise sociale, sans la participation, sans l'adhésion de la population, y compris même dans la gestion de nos institutions, la bibliothèque devient finalement une institution en danger. On peut, là aussi, avoir une approche plus philosophique de la participation, faire référence au principe de reconnaissance tel qu'il a été analysé par des philosophes comme Charles Taylor ou Axel Honneth. Il me semble qu'effectivement, la question de la participation, c'est celle de la reconnaissance de la société civile, ce qu'on appelle la société civile, d'ailleurs, en gros, hein, les collectifs plus ou moins organisés, les associations, etc. Donc, il me semble que là, il y a quelque chose qui est plus traditionnel, qui est finalement, on est dans un terrain qui apparemment est plus familier. Et en même temps, je n'en suis pas totalement sûr. Parce que ce qu'on voit, au fond, apparaître comme étant une offre de participation, une offre institutionnelle de participation, c'est peut-être quelque chose qui entraîne une certaine fatigue démocratique. La participation est devenue une norme de l'action publique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mesure d'action publique, et notamment dans les villes ou même dans les régions, qui ne s'accompagne de dispositifs de participation auxquels les citoyens sont supposés, voire enjoints à participer. Et donc, c'est là que je dis, faisons attention, il y a peut-être une nouvelle ingénierie publique de la participation qui n'a pas grand-chose à voir avec la participation spontanée telle qu'on l'entendait dans les années 60 ou 70. Ceci dit, il y a effectivement un choix à faire pour les bibliothèques, d'ailleurs comme pour les musées. Je réfère ici à ce que disait Nina Simone à propos du musée participatif aux États-Unis et, par exemple, à ce que dit Barbara Pfister dans un post sur son blog en 2012. Voici les choix auxquels les bibliothèques universitaires et de lecture publique sont confrontées. Le premier est de se centrer entièrement sur le meilleur accès à l'information que souhaite notre public. Okay. Le second est de faire des bibliothèques des plateformes pour créer et partager la culture. Si on adopte ce choix, la bibliothèque devient un lab, un atelier, un lieu de création où la communauté peut créer une culture partageable. D'où, effectivement, les innovations que j'évoquais très, très brièvement tout à l'heure dans un certain nombre de villes. Si vous allez à Londres, Londres a créé trois quartiers des nouvelles bibliothèques qui s'appellent des Ideas Store, qui sont des lieux, effectivement, dont l'architecture ressemble beaucoup plus à des shopping malls qu'à des bibliothèques classiques. Ceci dit, il y a aussi des bibliothèques qui sont associées à des shopping malls. J'en connais une très importante à Grenoble. Mais aussi qui sont organisées sur le plan architectonique en fonction de la manière dont on pense que les gens, les jeunes notamment, aiment se territorialiser dans ces espaces urbains-là. Et donc, la bibliothèque répond, ces nouvelles bibliothèques, Ideas Store, répondent à ce besoin. Troisième stratégie, c'est la stratégie interculturelle. Alors, vous allez me dire, les bibliothèques, elles sont interculturelles par définition, puisqu'elles ne font pas de différences particulières entre les livres d'où qu'ils viennent et quelquefois évidemment dans quelques langues qu'ils soient écrits. Il y a effectivement dans cette approche de l'interculturalité des éléments qui considèrent que la bibliothèque doit être un lieu dans lequel ceux qui viennent de l'immigration, par exemple, vont trouver un endroit où mieux se socialiser et mieux avoir affaire donc à la culture du pays. Mais personnellement, je pense qu'il faut considérer l'interculturalité d'une façon beaucoup plus large. Et c'est d'ailleurs ce que font aujourd'hui beaucoup de bibliothèques, même si c'est quelquefois assez difficile à l'admettre ou à le mettre en œuvre, eh bien, je pense qu'une notion plus complète de l'interculturel, c'est celle qui prend en compte les brouillages entre les hiérarchies habituelles qui sont analysées par la société de la culture, c'est-à-dire le brouillage entre la culture de qualité, la culture de divertissement, la culture de l'élite, la culture populaire, les légitimations internes, la culture nationale et culture régionale ou culture communautaire, les frontières traditionnelles, hein, les cultures d'ici, les cultures d'ailleurs. Donc en fait, toutes ces hiérarchies ou toutes ces postulations culturelles se retrouvent au sein de la bibliothèque, s'expriment à travers des supports qui sont eux-mêmes extrêmement, extrêmement divers. Et donc la bibliothèque est ou devient interculturelle par le fait même. Si je quitte maintenant ces trois stratégies, bon, voilà, elles sont exposées. On voit que les bibliothèques s'y adaptent plus ou moins. Je voudrais peut-être pour terminer dire un mot du défi le plus important, qui est celui du numérique et de la façon dont ce défi du numérique amène à travailler différemment avec les publics. Bon, alors, il me semble que une qualité particulière pour traiter cette question, je dirais qu'une qualité particulière de la bibliothèque, ce n'est pas simplement qu'elle est un lieu dans le monde qui aurait un point de vue du monde à travers la musique, à travers la peinture, à travers évidemment tous les livres, mais c'est un lieu pour comprendre le monde et c'est un lieu pour comprendre tout du monde et un lieu d'intelligibilité du monde. D'où l'importance qu'il faut accorder au bâtiment, à son architecture, à la situation dans l'espace urbain, à ce qui le rend attractif, etc. Et il faut l'identifier comme un lieu du monde, c'est-à-dire comme un lieu à partir duquel on comprend le monde et tout ce qu'il contient, au moins potentiellement. Non pas comme un ordinateur tout-puissant, hein, qui, effectivement, vous donnerait accès à tout le savoir du monde, mais parce que c'est un lieu où tout le savoir du monde peut être mis en contexte. Voilà. C'est un lieu dans lequel tout le savoir du monde pourrait trouver une signification, un lieu où les significations sont convoquées. Et c'est ça qui m'apparaît être le point essentiel. Et c'est là, évidemment, que toute la question de la médiation se pose peut-être à de nouveaux frais. Ça veut dire, effectivement, qu'on ne peut pas concevoir la collection des documents, des livres, des supports, etc., sans finalité ou sans intentionnalité. Et c'est évidemment là que se pose le problème de fond. Le problème de fond, c'est effectivement que nous sommes dans des sociétés dans lesquelles nous sommes conduits, nous sommes amenés, nous sommes sollicités en permanence à faire l'expérience de la fragmentation, l'expérience de la segmentation. Alors, fragmentation des espaces, fragmentation des savoirs, segmentation sociale. Et justement, tout le travail peut-être des bibliothèques et de l'éducation populaire, ou des bibliothèques avec le secours des instruments de l'éducation populaire, serait justement de retrouver des totalisations, de retrouver des formes de synthèse, de retrouver des formes à partir desquelles toute cette tendance extraordinairement forte à la segmentation pourrait effectivement être combattue. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas de choix entre les trois stratégies que je vous ai indiquées. Je ne choisis pas le créatif, je ne choisis pas le participatif, je ne choisis pas l'interculturel. Je voudrais, pour être fidèle au principe que je viens d'énoncer, essayer justement de trouver quelque chose qui les rassemble. Et personnellement, j'ai trouvé une formule, elle n'est pas de moi, hein, mais je l'aime beaucoup. C'est une formule que j'ai trouvée chez John Dewey, donc un auteur important pour l'éducation, un auteur important pour les bibliothèques, un auteur important pour la philosophie pragmatique. Dewey qui dit... sortir effectivement de la participation ou de la délibération pour essayer de mettre en place une démocratie créative. C'est la démocratie elle-même qui doit être créative. Et donc, moi, il me semble que cette formule est intéressante. En tous les cas, je la trouve pour ma part satisfaisante. Et je crois que la culture de la démocratie créative, ben, c'est celle qui donne à chacun la possibilité d'avoir prise sur la création et sur l'évolution du processus de construction de sens. C'est ça qui me semble important. Cette exigence réflexive, elle abolit en réalité les divisions. C'est par cette réflexion, par cette exigence réflexive qu'on peut abolir les segmentations, les fragmentations dont je parlais, les dualismes aussi, qui sont encore puissants au sein de la culture. Et donc, cette démocratie créative, elle serait trans ou interculturelle par posture épistémologique, et elle ne craindrait pas, peut-être, d'être véhiculée par le numérique qui en serait le grand opérateur globalisé. Je vous remercie.
Je voudrais remercier Max Butlen et Guy Saez qui nous ont offert un éclairage d'intelligibilité sur des options, sur des choix qui nous ont emmenés loin de ce consensus, ces consensus lénifiants auxquels le quotidien nous habitue parfois, du genre « lire, c'est bien », la démocratisation culturelle est un impératif catégorique. Bon, il faut évidemment, pour redonner du sens et de la saveur à ces impératifs, les éclairer ce que vous avez permis de faire en traçant des lignes de partage et des options et en finalement renvoyant à l'idée que ces lignes de partage et ces options relèvent finalement de la chose publique et du choix politique. Alors, des questions ou des interventions à la suite de ces deux premières prises de parole, soit pour une demande de précision, soit pour un éclairage. Je ne sais pas, c'est prévu maintenant, Christophe, c'est possible ou pas? Non, je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir. Oui, il y a une main qui se lève par là-bas. Il y en a une là et puis une autre là-bas. J'en vois deux. Merci.
J'aurais une question à poser à Monsieur Max Butlen. Je pense qu'il serait utile d'identifier les passerelles entre massification et puis démocratie et démocratisation. À ce sujet, vous avez beaucoup parlé de médiation. Je voudrais savoir, vous avez en particulier approfondi la question entre les pratiques culturelles des adolescents et puis la rigidité scolaire. Et à ce sujet, quel type de médiation vous imaginez? De quoi serait composée? De quelles institutions et de quelles personnes? Et quelle sera son efficacité? Merci.
Oui, merci. Effectivement, l'idée est de repenser complètement les médiations qui, très souvent, manquent cruellement pour permettre à ceux qui sont loin de la culture savante et légitime d'y entrer, de se l'approprier. Je voudrais dire tout d'abord que, au fond, qui sont les lecteurs compétents, performants? Si on regarde les résultats des recherches et des observations, on voit que, au fond, les lecteurs les plus efficaces et ceux qui, bien souvent, ont le plus de plaisir, ce sont ceux qui maîtrisent deux aptitudes. La première, c'est celle de diversifier les lectures, celles qui ont un champ de lecture les plus vastes parmi les jeunes. Et la seconde, c'est de maîtriser les stratégies de lecture. Alors, on s'aperçoit que cette diversification des lectures et cet enseignement des stratégies de lecture, bien souvent, ne se fait pas. Alors, il y a des choses qui relèvent de la médiation, mais il y a aussi des choses qui relèvent de l'enseignement. Par exemple, et là, c'est tous les travaux complémentaires que nous avons pu faire avec mon équipe autour de PISA, montrent combien l'école oublie d'enseigner les stratégies de lecture, combien elle oublie d'apprendre à comprendre les textes, en fait. Ce qui fait, en somme, ce qui a pour conséquence qu'on travaille sur de l'implicite. Et les enfants et les jeunes qui n'entrent pas dans cet implicite sont rapidement exclus. Je me souviens d'une parole d'une de ces jeunes qui disait « En entrant dans l'école, j'entre dans un monde dont je ne connais pas la langue ». Eh bien, cela, vous voyez, cette ignorance de la langue de l'école par les enfants supposerait qu'on la leur apprenne et supposerait d'autres types de médiation qui s'appuie sur ce qu'ils sont réellement. Parce que ce qu'ils sont réellement, bien souvent, est nié. Et si, par exemple, vous rejetez les lectures d'un enfant parce qu'elles ne sont pas, ou d'un jeune parce qu'elles ne sont pas légitimes, c'est lui-même que vous rejetez. Voyez-vous ? Et donc, me semble-t-il, il importe de s'appuyer sur les pratiques culturelles réelles, d'en tenir compte, sur les pratiques de lecture réelles aussi, et d'en tenir compte pour les respecter, d'une part, et pour les élargir, bien évidemment, d'autre part.
Question.
Oui, bonjour. C'est une question très concrète et peut-être la réponse viendra également de la salle. À l'heure du MP3, etc., sachant qu'on a des ouvrages de nature très diverse et pour certains vraiment d'une très très grande qualité rédactionnelle, disponibles, enregistrés à destination initiale des malvoyants, est-ce qu'on constate dans les emprunts que, par exemple, en fait, un jeune qui va l'utiliser pendant son jogging ou son trajet en bus, par exemple, est-ce que cette nouvelle pratique qui n'existait pas dans le temps, dans les classes populaires, comme on dit, on mettait la radio en continu, et maintenant on a un nouvel outil technique, donc c'est par exemple un acteur, une actrice célèbre qui lit un ouvrage de la grande littérature. Est-ce qu'emprunter ça pour faire son jogging avec fait partie des nouvelles pratiques ?
Il y a quelqu'un qui peut répondre. Voilà, il y a une réponse. Formidable. On va pouvoir se lever.
On pourra reposer la question à Olivier.
Ouais. Ouais.
Donc, rebonjour, Christine Carrier. Avant d'être directrice de la BPI, j'étais directrice des bibliothèques de Grenoble. Donc, c'est plutôt à ce titre que je vais vous apporter un élément de réponse, puisque je ne suis pas chercheuse. Mais en tout cas, les emprunts de CD, de littérature, de DVD et surtout de CD en littérature, c'est-à-dire de textes lus de la littérature, ont considérablement augmenté en lecture publique depuis environ une dizaine d'années. On s'est rendu compte, nous, en faisant une mini-enquête de public à Grenoble à ce moment-là pour savoir pourquoi ce fonds prenait autant de alors qu'il était au départ fait pour les malvoyants, etc., donc très lié aux personnes en situation de handicap. Et en fait, on s'est rendu compte que les trajets urbains de notre public faisait que des adultes, et notamment des adultes en famille, empruntaient ces documents pour pouvoir faire des trajets en voiture et donc écouter de la littérature et non plus la lire. Mais ça avait pris des proportions très importantes à Grenoble sur 5-6 ans. Et voilà l'un des éléments de réponse que je peux vous donner. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est une pratique liée aux adolescents en particulier, mais des pratiques liées à la voiture, à l'utilisation de la voiture, en famille ou en situation de cheminement sur son trajet de travail.
Merci beaucoup. Une autre remarque, une autre question ? Oui, il y a une question. Pierre, vas-y.
Non, c'est une question de concours à l'ENSIB. on est passé... je dirais très... Pierre Moulinier, enfin, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, notamment avec Jean-Claude.
C'est Jean-Claude qui a travaillé avec toi.
Merci. on est passé un peu de l'éducation, populaire ou pas, à l'animation socioculturelle ou culturelle, et aujourd'hui à la médiation culturelle. Qu'est-ce qu'elle est, cette médiation ? Alors, c'est justement le sens de ma question. Comment Max Bultelen... qu'est-ce qu'il entend par médiation ? Quels sont les enjeux aujourd'hui, dans le domaine de la lecture, de ce qu'on appelle médiation ? Qui sont les médiateurs ? Est-ce qu'ils sont formés ? Est-ce qu'il y a, un peu comme les animateurs autrefois, est-ce qu'il y a un métier de médiateur ? Où est-ce qu'on les trouve ? Quel est leur rôle dans l'école ? Est-ce qu'ils existent dans l'école, etc. Voilà, toutes ces questions à titre très personnel, je suis très intéressé par la réponse.
Oui. En fait, Jean-Claude disait que j'étais malicieux tout à l'heure en disant...
C'est un euphémisme.
En posant la question, le voulait-on vraiment ? Voulait-on vraiment la démocratisation culturelle ? Eh bien, je crois que parfois, la réponse est non. La réponse est non parce que précisément, on ne souhaite pas que tous ces enfants... de la classe ouvrière, tous ces enfants des travailleurs les moins favorisés, finalement disputent un certain nombre de places avec d'autres qui sont bien installés dans leur quartier, dans leurs écoles, écoles qu'on ne partage pas. La mixité scolaire n'existe pas vraiment, on le sait bien. Et la prise en compte de ce que sont vraiment ces jeunes me semble totalement insuffisante. Alors, il faudra un colloque sur la médiation, et je crois qu'il y a un colloque qui est annoncé prochainement.
Dans la mesure où, dans la situation actuelle, on est plus dans le champ scolaire, hein, je parle du champ scolaire, à imposer un modèle culturel qui est un peu parachuté, plutôt qu'à se soucier de faire progresser quelqu'un en élargissant sa culture. Alors, les médiateurs, bien sûr, ce sont les parents, ce sont les enseignants, ce sont les bibliothécaires, ce sont maintenant les éditeurs et les écrivains, ce sont les professionnels du livre et de la lecture, qui, pendant tout un temps, je me souviens du travail qu'avait fait Jean-Claude Pompougnac, hein, pour qu'ils travaillent ensemble, se sont employés à analyser les causes des difficultés de progression dans la démocratisation scolaire, et qui devraient, à mon sens, le faire davantage, en voyant comment on peut élargir sa culture par d'autres pratiques, mais étant entendu qu'encore faut-il que cette culture soit prise en compte et non pas méprisée, comme me semble, ou rejeté, comme illégitime, comme c'est très souvent le cas. Ce que j'ai, la citation de la jeune fille du lycée de Trappes me semble à cet égard totalement éloquente. C'est une lectrice, et la première chose qu'elle m'a dite quand je l'ai interviewée, c'est qu'elle ne lisait pas. Elle ne lisait pas parce que pour elle, les lectures sont seulement les lectures légitimées par l'école, et que ces pratiques de lecture de textes de fantaisie ou ces pratiques de lecture sur écran ne valait rien, en quelque sorte. Et si ça ne valait rien, ben c'est elle qui valait rien. Et la médiation, c'est d'accepter l'individu tel qu'il est, avec son origine sociale, avec ses pratiques culturelles, pour essayer, me semble-t-il, d'ouvrir d'autres horizons. Mais encore une fois, c'est vraiment l'objet d'un colloque tout entier.
Je vais laisser la parole à Guy Saez en rappelant effectivement à propos du terme de médiation, cette formule que j'ai entendue quelque part, quand on parle de médiation conjugale ou quand on nomme un médiateur entre les organisations syndicales et les patrons, c'est qu'il y a un conflit. Donc en matière de culture, il est où le conflit? Mais tu as répondu. Guy.
Avant de répondre précisément, j'ai ce souvenir qui me vient là, des premiers travaux sur la médiation au musée, qui d'ailleurs doivent beaucoup à cette maison, hein, puisque il y a eu un groupe expérimental qui s'est mis en place ici à Beaubourg avec Peuple et Culture à l'époque début des années 80, tout au début des années 80, avec Jean Davalon, Anna Cottes-Diener, avec Dominique Poulot, avec Christian Carrier et bien d'autres, qui étaient justement destinés à réfléchir, Elisabeth Caillé, à réfléchir aux conditions de la médiation dans les musées. Parce que les musées ne savaient pas ce que c'était que la médiation, on n'en faisait pas. Donc cette médiation dans l'action culturelle, elle doit beaucoup effectivement aussi au Centre Beaubourg. Mais en ce qui concerne plus précisément la question de Pierre, je reviens à ce que je disais sur la question de la dépédagogisation. Il ne faut jamais oublier que l'éducation populaire et d'une certaine façon certaines institutions culturelles ne sont que des institutions qui viennent après l'école. Et quelquefois même, ce sont des contre-écoles. Alors, l'éducation populaire a largement été contre l'école. Alors, c'était paradoxal, puisqu'elle était peuplée d'enseignants. Hein, c'était des enseignants, mais des enseignants qui se sentaient mal, justement, dans le modèle de transmission classique de l'école et qui, donc, souhaitaient faire autre chose. Et moi, j'insiste beaucoup sur cette question du rapport au pédagogique et cette mythification, cette mythologisation du pédagogique qui existe dans la société française et qui est maintenue par l'organisation de la profession des enseignants, enfin, par un ensemble de choses de ce type. Et il est très clair que lorsqu'on regarde les stratégies des enseignants, les stratégies des enfants des enseignants, on voit très bien où se situe la question. Hein, on voit très bien où se situent les blocages. Et là, on est en plein dans du politique. On est en plein dans du politique. Et ce n'est pas simplement des instruments ou des dispositifs de médiation qui y viendront à bout.
Non, bien sûr, il y a des limites considérables, oui, aux possibilités de l'action enseignante et de l'action pédagogique. On est bien d'accord.
Merci de votre attention, merci infiniment. Et je ne sais pas, Christophe, comment ça se passe pour la suite. Tu vas nous le dire.
C'est Thierry qui prend la main.
Merci bien.